des hommes, des femmes vous parlent sur Canal Académie.
Parcours. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Bonjour, cette émission Parcours est consacrée au professeur Guy De Thé, que j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir dans le studio de Canal Académie. Professeur De Thé, vous êtes chercheur, vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS et professeur honoraire à l'Institut Pasteur et correspondant de l'Académie des sciences, où vous avez été élu en 1993. Naturellement, aussi membre à l'Académie de médecine, mais plus original, membre étranger de l'Académie des sciences de Chine. Et vos travaux au niveau mondial sur les virus des leucémies aviaires et murines, ainsi que le rôle des virus dans les cancers humains, vous ont amené à voyager partout dans le monde pour être en contact avec les chercheurs biologistes les plus éminents. Votre parcours a commencé aux États-Unis, ce qui à l'époque était osé et original. Vous êtes devenu d'ailleurs membre étranger de l'Institut de médecine de l'Académie des sciences des États-Unis. Allez, racontez-nous.
Merci d'abord. Je voudrais exprimer le plaisir que j'ai d'être à Canal Académie. Et en effet, il est très important que les académies des sciences, de médecine, de technologie puissent être au service du public et puissent s'exprimer et ouvrir la science à la curiosité des plus grands nombres. En effet, c'est en janvier 61 que, avec un tout petit bébé d'environ 6 mois, nous sommes partis à l'aventure, émigrant comme au 19e siècle, vers la terre du possible, et dans des conditions assez difficiles, parce que ça a commencé par un orage effroyable au-dessus de l'Atlantique et en arrivant au-dessus des États-Unis, qui fait qu'on a été détourné de plus de 1000 kilomètres de notre destination. Là, j'ai commencé au CNRS, à l'Institut du cancer de Villejuif, sur les leucémies des oiseaux, et que ce que j'ai continué aux États-Unis, à l'université de Duke, et j'ai eu beaucoup de chance. Très rapidement, j'ai fait une découverte importante montrant que la maturation des virus à la surface des cellules cancéreuses. Et ceci a donné un grand, grand coup de départ de mon travail. Ensuite, je suis parti à l'Institut du cancer des États-Unis, au nord de Washington, à Bethesda, où j'ai continué à travailler sur ce problème. Puis, nous sommes rentrés en France avec non seulement l'enfant qui avait commencé à grandir, mais avec deux petites filles qui sont donc américaines et françaises. Nous sommes revenus en fin 65, retrouvant le CNRS pour peu de temps et ensuite étant appelé à être un des fondateurs du Centre international du cancer à Lyon, créé par le général de Gaulle, avec, vous souvenez peut-être, les 5% des budgets militaires. Ça n'a pas été le cas, mais ça a été 0,00 quelque chose pour cent. Mais tout de même, ça a été un centre qui existe toujours, qui a 25 ans et qui a fait de très beaux travaux et dont la mission est d'essayer de comprendre la cause des cancers dans le monde et en particulier dans le monde en développement. C'est comme ça que j'ai mis en place un très gros programme de recherche sur le rôle des virus dans les cancers humains, qui, puisqu'on savait que c'était le cas pour les oiseaux, pour les souris, pour les rats, et par conséquent, et quoi de l'homme? Donc on a commencé. Et là, ça m'a amené à travailler en Afrique de l'Est, en Ouganda, puis ensuite on verra en Chine du Sud, dans le Sud-Est asiatique, Hong Kong, Singapour, puis entrer en Chine en 79, avec comme objectif essayer de comprendre pourquoi un virus tout à fait ubiquitaire qui infecte chacun de vous qui m'écoutez. Nous sommes tous infectés par un virus tout à fait banal, un virus herpès, de la famille des herpès virus, et qui infecte les cellules lymphoïdes de notre organisme et qui reste là silencieux. toute la vie, et donc nous n'avons aucune pathologie associée à ce virus. Or, ce même virus, dans des conditions tout à fait particulières, lorsqu'il est transmis d'adolescent à adolescent dans nos pays, induit une mononucléose infectieuse que beaucoup d'entre vous connaissent et qui est due à ce virus tout à fait banal, mais qui infecte massivement les teenagers, si je peux m'exprimer, et au cours des premiers émois, échange de salive.
On dit que c'est la maladie du baiser.
Tout à fait. Et ce qu'on a découvert, c'est que ce même virus était à l'origine d'un cancer très particulier des enfants en Afrique qui s'appelle le lymphome de Burkitt. Burkitt étant un chirurgien britannique militaire qui a fait une découverte extraordinaire montrant que ce cancer de la face était limité à certaines régions géographiques, donc dépendant de l'environnement. Et en fait, nous avons démontré par une étude sur 45 000 bébés âgés de 6 mois à 2 ans, qu'on a suivis pendant 10 ans.
45 000,
que ce virus était bien la cause de ces cancers
de l'enfant. Comment avez-vous fait pour suivre
Nous avons pris du sang de ces enfants, bien sûr avec l'accord des mères et des pères. Et nous avons suivi ces 45 000 enfants pendant 10 ans. Et ce qu'on a observé, c'est que tous les enfants qui ont développé un lymphome de Burkitt, en fait, avaient été infectés très très tôt dans la vie par ce virus qui s'appelle virus herpès d'Epstein-Barr. Et ce qui démontrait qu'il y avait une relation causale entre une infection très précoce dans la vie par une transmission de la mère à l'enfant, par le lait, par la salive, et que cet enfant allait développer, 10 ans, 12 ans après, ce lymphome. Nous avons ensuite découvert que ce même virus était étroitement associé à un cancer totalement différent dans un autre environnement totalement différent, qui est le cancer du rhinopharynx, c'est-à-dire la jonction entre les fosses nasales et le pharynx. Il y a là une zone très curieuse où il y a un tissu lymphoïde important avec un épithélium respiratoire, bien sûr, et que ce cancer, qui est le plus fréquent chez les Chinois cantonais, était associé à ce même virus. Donc, la fascination, c'est qu'un même virus peut donner dans des conditions différentes d'environnement et d'environnement socioculturel, d'habitude hygiénique, des maladies totalement différentes. Et ceci était comme une grande, grande nouveauté dans la recherche sur le cancer. Et surtout pour un pasteurien, on sortait de la notion un agent infectieux, une maladie. Là, un agent infectieux peut donner soit rien du tout, soit une mononucléose infectieuse, soit un lymphome de Burkitt chez l'enfant, soit un cancer du rhinopharynx chez les adultes chinois.
Alors, je vois pourquoi la Chine aussi maintenant.
Voilà.
Après l'Afrique est le singe vert aussi.
Tout à fait.
Et là, la Chine. Dites-nous aussi, vous êtes président du réseau mondial des académies des sciences de médecine et de technologie pour les problèmes globaux de santé dans le monde. Vous pouvez nous en dire un peu plus?
Tout à fait. Alors, après quand je suis revenu en 90, j'ai été appelé par l'Institut Pasteur à créer une unité d'épidémiologie des virus et cancers, je l'ai fait. Et puis, en 96, il y a eu cette mise à pied vraiment incroyable. On a forcé les chercheurs de très haut niveau à s'arrêter de travailler, de penser et d'écrire et de travailler à 65 ans.
Ouais.
Ce qui est une ineptie que seuls des politiques peuvent atteindre et réaliser. C'est effrayant. Effrayant.
Et pourtant, qu'importe le nombre d'années qui s'ajoutent à la vie, l'important est d'apporter de la vie aux années, comme vous faites très bien, professeur.
Tout à fait. Et puis, il faut savoir, Louis Pasteur a créé l'Institut Pasteur, il avait bien dépassé l'âge de la retraite, il n'aurait pas pu le faire maintenant. Quand Jean Dausset a créé le centre du polymorphisme humain à l'hôpital Saint-Louis, bien après les 65 ans. Donc tout ça, ça n'a aucun sens, mais néanmoins, c'est un fait.
Einstein. Et A égale VA, âge égale valeur ajoutée.
Alors, donc, lorsque, à l'Institut Pasteur, nous avons continué ces travaux, en travaillant sur un virus totalement différent, qui est le cousin germain du virus du sida, qui est un rétrovirus, et on a démontré que ce virus, qui avait été montré être la cause de leucémie dans certains pays, surtout au Japon et sud-est asiatique, on a démontré que ce même virus pouvait induire des maladies neurologiques, de dégénérescence neurologique, qui a complètement ouvert la voie à la recherche sur la sclérose en plaques et les virus, qui malheureusement piétinent encore, mais qui démontre de nouveau qu'un même virus peut donner des maladies différentes selon l'environnement.
Mauvais cousin, là, hein?
Voilà. Alors là, lorsque, donc, en 97, j'étais obligé de m'arrêter. J'ai été beaucoup plus actif au niveau académique. Et en l'an 2000, a été créé le réseau mondial des académies des sciences, de médecine et de technologie pour les problèmes globaux de santé. Et là, on m'a proposé de co-présider avec le délégué aux relations internationales de l'Académie de médecine des États-Unis, d'être le co-président, et on a donc développé des programmes. Alors là, dans un premier temps, nous avons fait un travail de fond que j'ai là, et qui est d'être le conseiller éditorial d'un gros projet de la Bill Gates Foundation sur les priorités en santé publique et comment, par un choix judicieux en fonction de médecine basée sur les preuves, on pouvait aider les pays en développement, mais aussi les pays industrialisés, à mieux choisir et à mieux décider des priorités au sein d'un budget donné pour avoir le plus d'efficacité possible. Et là, vous avez ici ce livre qui est très très bien fait sur les priorités en matière de santé qui est là pour aider.
Je vois qu'il est édité par la Banque mondiale.
C'est la Banque mondiale, le consortium pour lequel nous travaillons était la Banque mondiale, l'Institut de la Santé des États-Unis, le fameux NIH, l'OMS et la Bill Gates Foundation. Et nous étions donc là le conseiller éditorial. Et puis après ça, nous avons mis progressivement en place certains projets de santé pour aider d'une part ces priorités de choisir pour les gouvernements en Afrique en particulier pour mieux décider de leurs priorités en santé publique et puis d'aide pour diminuer la mortalité materno-infantile à travers des projets dans 6 régions du monde différents qui sont coordonnés par l'Académie des sciences de Suède, des programmes d'éducation et d'aide à la formation de l'écriture scientifique, comment écrire un manuscrit, comment faire une demande de subvention, etc. Un site internet pour promouvoir les relations de recherche entre le Sud, le Nord, l'Est et l'Ouest, et d'autres programmes.
Il s'intitule comment, votre site internet?
Mother-child.org.
Et si vous pouvez appeler, comme ça tout le monde
voilà,
pourra l'écrire.
Mother, Mother-child, l'enfant, child.org. Avant, bien sûr, c'est www, bien sûr.
Nous allons reprendre dans quelques instants.
Thank you.
Professeur Guité, donc nous reprenons, et peut-être plus sur le rôle du virus dans le monde et les comportements, et en deuxième volet, je dirais, le rôle de la science dans la société.
Mais avec un grand plaisir. Les virus sont de merveilleux petits objets, des petits organismes qui sont extraordinairement petits, qui représentent parfois un melon par rapport au diamètre de la Terre, donc extrêmement petits, mais qui sont eux-mêmes un organisme avec leur propre programme génétique, soit ADN, soit ARN, et qui infectent depuis le début des temps biologiques les cellules vivantes. Dans notre approche intellectuelle et culturelle, virus veut dire mauvais à la limite. Et donc un virus doit induire une maladie. Or, l'immense majorité, sans doute 95-98% des virus, n'induisent pas de maladie chez l'homme, mais néanmoins parasitent l'organisme humain. Et ce parasitisme aboutit vraisemblablement dans le cas des rétrovirus, à une intégration du génome, c'est-à-dire du patrimoine génétique de ces virus au sein des cellules qui sont ensuite transmises de génération en génération. Et on peut parfaitement proposer l'hypothèse, et certains l'ont fait aux États-Unis, que ces rétrovirus qui s'intègrent dans l'organisme peuvent jouer un rôle tout à fait positif dans l'évolution des espèces. En effet, lorsque vous passez, quand un virus se transmet d'une espèce à une autre, il envahit cette nouvelle hôte, il s'intègre, et s'il est porteur d'un gène qui peut être utile à l'hôte nouveau qui vient d'infecter, eh bien, le nouvel organisme va adopter ce virus, le gène qu'il comporte, et puis s'en servir. Et donc c'est comme ça, peut-être, c'est une hypothèse, c'est que ce soit utile.
Le virus utile.
Voilà.
Le virus utile du professeur de T.
Et c'est d'autant plus intéressant qu'au moins 0,5% de tout votre génome et du nôtre, de chacun de nous, est en fait constitué de restes de rétrovirus qui ont infecté au cours de millions d'années, qui nous ont amenés à l'espèce humaine, peu à peu, restent comme des preuves qu'ils ont été là et ils sont complètement inactifs.
Des témoins.
Alors, donc ça, c'est tout à fait intéressant. Les virus et le 21e siècle sera un siècle viral. Il sera religieux quand même, mais il sera avant tout viral. En effet, les transports, la mobilité de l'être humain aujourd'hui dans la plupart des pays développés, industrialisés, voyagent énormément. Et donc, la transmission de virus est quelque chose d'absolument extraordinairement plus efficace aujourd'hui qu'il y a quelques milliers d'années.
Et on comprend pourquoi avec les transports rapides.
Vous avez vu le SARS est apparu à Hanoï. Le lendemain, ou deux, trois jours après, il était, vous vous souvenez, au Canada. Ensuite, il est passé en Europe, aux États-Unis.
C'est le virus TGV, ça.
C'est le virus, jet.
Ah ouais.
Le jet virus.
Très grande vitesse, en tout cas.
À grande vitesse. Et ça, c'est très important. Donc, tous les virus infectieux. Au niveau des virus qu'on appelle oncogènes, oncos en grec, ça veut dire le cancer, la tumeur. Au niveau des virus oncogènes, c'est différent. La clé du problème est une infection materno-infantile, donc une transmission de la mère à l'enfant par certaines coutumes. Bien sûr, l'allaitement maternel. Et puis, parfois, il y a des échanges de salive entre la mère et l'enfant. Le baiser, la mère a envie d'embrasser son enfant, bien sûr. Et dans certaines ethnies autour du monde, il y a ce qu'on appelle le baiser nourricier, qui est quelque chose d'assez merveilleux. C'est-à-dire que la mère veut que l'enfant s'adapte à la nourriture adulte, et donc lui prémâche une alimentation adulte qu'elle transmet, qu'elle nourrit à travers un baiser nourricier
On ne le voit pas partout quand même.
Non.
C'est dans
quelle
région?
Non, mais c'est en même temps très beau comme symbole.
Bien sûr. C'est dans quelle région vous avez trouvé cela?
En Afrique, dans une région d'Afrique. Mais ce n'est pas du tout négatif. Il ne faut pas le voir comme quelque chose de négatif. C'est extrêmement riche et ça permet à l'enfant de s'adapter et donc d'avoir moins d'accidents, d'un changement brutal de nourriture. Alors, ce problème de comportement et virus est très intéressant parce que, de même pour la mononucléose infectieuse, c'est le baiser nourricier d'amour qui transmet le virus. Au niveau de ce que, pour revenir au cancer dont on en parlait tout à l'heure, le cancer du rhinopharynx ou le cancer chinois du sud, eh bien là, on était en face d'une situation assez fascinante où ce cancer est très très fréquent. C'est le cancer le plus fréquent pour la Chine du Sud, dans un triangle que je ne peux pas dire d'or, dans un triangle de noir de ce cancer, avec présence d'îlots où ce cancer n'existait pas. Alors nous sommes allés voir, on s'est dit, mais ce n'est pas possible. C'est un artefact, c'est qu'on les gens ne le connaissent pas. Ils le connaissent parfaitement, mais chez eux, il n'y est pas. Un village, c'est le cancer numéro un, vous allez à 50 kilomètres, il n'y en a plus. Et on s'est aperçu que c'était des groupes ethniques différents. Certains groupes ethniques étaient en première ligne touchés par ce cancer, alors que d'autres n'étaient pas. Alors c'est là où, ayant un prix au Collège de France, le prix de la Cassagne, qui consistait à faire 4 conférences sur le sujet qu'on voulait, j'ai parlé de la distribution géographique des cancers, et un ethnologue, Monsieur Geste, était ahuri d'écouter ça. Il me dit, mais dites-moi, nous pouvons participer à vos recherches sur le cancer dans le monde. Je dis, tout à fait, parce que moi, je ne sais pas ce que c'est qu'une ethnie. Vous le savez. Et c'est comme ça qu'a commencé une collaboration extrêmement efficace et avec une anthropologue de l'alimentation de ces régions du sud-est asiatique, Annie Hubert, et avec laquelle nous avons travaillé pendant plus de 10 ans, et avec laquelle d'ailleurs on a écrit un livre qui s'appelle « Sur la piste du cancer ».
Déjà, après le virus utile, le virus amour, le virus voyageur, dans tout cela, quel est le rôle de la science dans la société?
Alors c'est là un sujet fascinant. La science a, me semble-t-il, un double but. D'abord, c'est de faire d'augmenter la connaissance fondamentale de la vie. Qu'est-ce que la vie? Comment se développe-t-elle? Le rôle de l'environnement dans l'expression de cette vie. On sait que la vie et que les organismes animaux et humains s'adaptent d'une façon extraordinaire à l'environnement géographique. Comment tout ceci se fait? Et puis, un deuxième rôle qui est d'être au service, au sens le plus noble du terme, de la société dans laquelle les chercheurs travaillent. Aujourd'hui, c'est bien sûr le pays, pour nous la France, mais c'est avant tout l'ensemble du monde. Car c'est Louis Pasteur qui dit, on travaille pour l'ensemble du monde et on travaille pour les plus pauvres et les plus atteints. Et donc, c'est quelque chose qui est tout à fait important. Et les scientifiques et l'académie devraient seulement jouer un rôle tout à fait important pour stimuler les collaborations interdisciplinaires. Il y a dans au niveau des sciences de la vie, dites les sciences dures, il y a les sciences de l'homme et de la société qui sont appelées malheureusement trop souvent sciences molles. Je préférerais le mot science souple, s'adaptant à l'humain. Et on s'aperçoit que les comportements humains ont un impact important sur votre santé, au niveau des virus, bien sûr, transmission de virus. Vous savez qu'il y a un virus qui s'appelle les virus papillomateux, qui sont à l'origine des cancers génitaux, premier cancer chez la femme pour de très nombreux pays en voie de développement.
On a des belles découvertes dernièrement.
Tout à fait, parce qu'en fait, maintenant, il y a un vaccin. Mais on sait avant tout que c'était transmis de l'homme à la femme, ce virus. Chez l'homme, il est presque innocent, tandis que chez la femme, malheureusement, il induit des cancers in situ et ensuite un cancer invasif du col de l'utérus. Et par conséquent, les comportements au niveau cancer en général, on sait que le tabagisme, l'alimentation, le comportement, le manque d'exercice, tout ça est lié à notre comportement et donc nous pouvons modifier. Et chacun de nous est, dans une large mesure, maître de son devenir au niveau santé. La santé, ce n'est pas l'affaire du gouvernement, c'est celle de chacun de nous.
Oh, c'est magnifique ce que vous nous dites. En tout cas, vous nous avez écrit là une belle page d'histoire du virus, mais votre parcours même est une belle page pour les sciences. Merci.